lecture ensemble dans l'évangile de Luc et je vous invite à l'ouvrir au chapitre 23. Voilà, dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et à partir du verset 32. Luc chapitre 23, verset 32. Lisant ici, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements, tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, disant, « Il a sauvé les autres. » Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Voilà, c'est le récit de la crucifixion qui nous est fait ici par l'évangéliste Luc. On peut dire que c'est la crucifixion du Christ est l'événement le plus important de toute la révélation biblique. C'est l'événement le plus important de toute l'humanité. Vous voyez, c'est un événement qui a été préparé par Dieu, qui a été annoncé au cours des siècles qui l'ont précédé, dans l'Ancien Testament, par des prophètes, par des hommes de Dieu. Et c'est un événement qui figurait dans le dessein de Dieu pour ce monde depuis les temps éternels. Vous voyez, le Christ est présenté dans l'Écriture, en effet, comme l'agneau de Dieu, prédestiné dès avant la fondation du monde. À travers la crucifixion de Jésus, c'est Dieu qui s'approche de nous, qui nous tend une main secourable. C'était le but du ministère du Christ. Il est né pour cela, il est né pour ce moment ignominieux, puisqu'il va être crucifié. C'était la mort réservée aux assassins, aux esclaves, mutins. C'est une mort horrible, mais aussi ignominieuse, nous le disons, et nous remarquons dans ce récit que nous fait Luc que le Christ n'a pas été crucifié seul, mais il l'a été au milieu de deux malfaiteurs, ce qui ajoutait encore à l'ignominie de sa mort. En réalité, c'est une prophétie qui s'accomplissait, puisque dans l'Ancien Testament, il était écrit que Jésus serait mis au nombre des malfaiteurs. Par l'acte de la crucifixion, par son œuvre à la croix, nous le disons, Jésus accomplit ainsi la volonté du Père. Il vient et il ne subit pas simplement un supplice que lui imposent les hommes dans leur volonté, mais il vient pour accomplir ce qu'il était venu faire. Vous voyez, c'est le dessein de Dieu le Père qui s'accomplit. Jésus avait dit, j'ai reçu de mon Père le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Il nous est également dit que Dieu voulait, par Jésus-Christ, réconcilier toutes choses avec lui-même, voyez, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, la crucifixion de Jésus, sachons-le, est pour nous un message de paix, un message de grâce. C'est une œuvre qui nous ouvre le ciel. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, pour les porter, pour ensevelir avec lui la condamnation qui pesait sur nous. Nous allons en parler. Et aujourd'hui, vous voyez, Jésus n'est pas resté dans la mort, il n'est pas resté dans le tombeau où on l'a déposé suite à la crucifixion. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, ça a été l'ascension, et il nous a dit qu'aujourd'hui il parle du haut des cieux. par le duo des cieux dans notre conscience, il parle par le Saint-Esprit, il parle lorsque nous ouvrons sa parole, comme nous le faisons cet après-midi. J'aimerais m'attarder sur ce fait que Jésus-Christ a été crucifié entre deux malfaiteurs. Voyez, aussi mystérieux que ça puisse nous paraître, même à travers ces événements terribles, la crucifixion du Fils de Dieu, Dieu nous parle par l'histoire, Dieu nous parle par les événements. Dieu a cette possibilité de nous enseigner à travers ce qui se passe, même lorsque Jésus-Christ a été mis à mort. Considérons ces deux malfaiteurs, je vois en eux une image de l'humanité tout entière. Voyez, ces deux hommes qui étaient des brigands, qui étaient sans doute des meurtriers, qui sont crucifiés, l'un à droite et l'autre à gauche, nous parlent de ce que nous sommes. Ils nous donnent une image saisissante de la condition de l'humanité. Premièrement, ce qu'ils sont tous les deux coupables, et le témoignage de l'Écriture est absolument sans équivoque, vous voyez, l'humanité tout entière est sous la culpabilité de son péché. Vous voyez, quelqu'un dira, moi j'ai jamais mis de pied dans une église, mais ni tué, ni volé, j'ai toujours essayé de faire le bien que j'ai pu autour de moi. Néanmoins, l'Écriture rend ce témoignage, vous voyez, tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Un homme qui réfléchissait à ces choses, un homme de Dieu, pourra même s'exclamer « Non, il n'y a pas sur la terre d'homme qui ne pêche jamais, qui ne fasse toujours que ce qui est bien. » C'est une réalité. Nous avons tous, à un moment donné ou à un autre, dans notre vie, dévié de la volonté de Dieu, accompli ce qu'il a offensé, ce qui lui était désagréable. Voyez, loin de moi de chercher à imposer cette réalité à votre conscience, mais très certainement, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre le fera, si notre cœur est honnête. Nous prenons conscience de notre culpabilité devant Dieu. Et en ceci, nous ressemblons à ces deux hommes, ces deux malfaiteurs. Nous sommes coupables vis-à-vis de Dieu et nous avons besoin de recevoir sa grâce. Non seulement ces hommes sont coupables, mais voyez, ils sont tous les deux sous le coup d'une condamnation. Ils sont pendus au bois. Ils l'ont été pour les crimes qu'ils ont commis. La justice les a condamnés et elle l'a fait sans doute avec cruauté. L'époque était cruelle, mais d'une certaine manière, elle l'a fait justement. Et nous aussi, vous voyez, nous sommes sous le coup d'une condamnation. Nous sommes le coup d'une condamnation, non pas la condamnation des hommes. Il se peut que nous ayons un casier judiciaire absolument vierge, mais par rapport à Dieu, c'est une réalité. Une réalité très importante que la Bible met en lumière et que Dieu s'est efforcé par divers moyens de mettre en lumière au fil des siècles. Et notamment lorsqu'il a donné sa loi à Israël, lorsqu'il a donné ses commandements, lorsque dans sa parole il consigne toutes sortes de commandements justes, eh bien il révèle à l'homme sa culpabilité. Vous voyez, la Bible est un miroir. Lorsque nous la lisons, nous découvrons certes le témoignage qu'elle rend à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu, à la personne bénie de Dieu, au plan qu'il forme sur nous. Mais nous y voyons aussi l'image de notre cœur à travers des comportements. Et souvent, cette image qu'elle nous renvoie, elle est peu flatteuse. Elle nous met devant ce que nous sommes, elle nous met devant nos failles, devant nos manquements, devant nos perversions parfois. Voyez, la Bible rend au cœur de l'homme une image juste et elle nous enseigne, elle nous apprend, elle nous révèle que le péché pratiqué par l'homme, il a un salaire, il conduit vers une punition. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il nous est dit que vient un jour où nous basculerons dans l'éternité, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Et ce jugement révélera, voyez, la condamnation du péché, c'est une réalité. Et cette condamnation, elle est déjà présente en quelque sorte. C'est Victor Hugo qui écrivait « Comment expliquer l'état du monde ?» Voyez, si l'humanité n'avait pas sur elle pesant comme un châtiment, et ce châtiment, il est divin. Voyez, les auteurs, les poètes honnêtes qui ont voulu réfléchir à la chose, dans leur conscience, avaient ce témoignage. C'est ce que Dieu nous révèle par l'Écriture. Comme ces deux hommes, nous sommes sous le coup d'une condamnation. Puis ces deux hommes, finalement, ils sont à quelques instants de la mort. Voyez, ils sont pendus au bois, tous les deux. Ils vivent les derniers instants de leur vie. Il leur reste, alors que ce récit s'ouvre, à peine quelques heures à vivre. Ils vont mourir. Et, voyez, vous souhaite longue vie. Mais finalement, tout est relatif. Quand on considère les choses à la lumière de l'éternité, quand on considère les choses à la lumière du temps tel que Dieu le voit, notre vie, elle n'est pas si longue qu'on peut le penser. Hein ? Quand on est jeune, on a l'impression qu'on a toute la vie devant nous. Mais même si c'est vrai, la vie est courte. Un homme de l'Écriture qui réfléchissait à ces choses disait, mais tu as donné à mes jours la largeur de la main. C'est pas large une main. Un homme qui réfléchissait aussi à sa condition disait, ma vie est semblable à une vapeur. Elle est semblable à un fil que l'on tranche. Mes jours passent comme la navette d'un tisserand. Vous avez déjà vu la navette d'un tisserand ? Ça va à toute vitesse. Et je vous assure que même quand on a, je ne sais pas, une quarantaine, une cinquantaine d'années, quand on se retourne, ça a passé tellement vite. Ces deux hommes qui se trouvent à quelques instants de la mort, ils nous amènent à réfléchir sur notre propre condition mortelle. Nous avons quelques dizaines d'années tout au plus à vivre sur cette terre. Et vous voyez, ça nous porte à la réflexion. Ça nous porte à la réflexion. Ces deux hommes, ils sont malheureux. Ils sont malheureux à cause de la condamnation qui pèse sur eux. Ils sont malheureux parce qu'ils sont pendus au bois. Ils sont malheureux parce qu'ils se sont comportés dans l'existence de telle manière à ne pas pouvoir en retirer de vrai bonheur. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu le centre de leurs préoccupations, parce qu'ils sont passés à côté de ce que Dieu voulait pour eux, finalement. Ils sont passés à côté. Et Dieu, certainement, ne désirait pas pour eux qu'ils commettent une vie rapide, de meurtre, et finissent pendus comme des misérables sur un bois. Et nous aussi, vous voyez, tant qu'on n'est pas venu à Dieu, on ne peut pas être heureux. Il n'y a pas de vrai bonheur loin de Dieu. Il peut y avoir des jouissances éphémères, trompeuses. Il peut y avoir quelques moments de plaisir, bien sûr, parfois légitimes. Mais le vrai bonheur ne se trouve qu'auprès de Dieu. Vous connaissez sans doute, vous connaissez peut-être cette réflexion du philosophe Pascal qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide. Ce vide, il est en forme de Dieu. Seule la communion avec notre Créateur, notre Père Céleste, peut remplir ce vide et nous communiquer le vrai bonheur. » Quelqu'un dira, moi, vous savez, ça ne me concerne pas, tout va bien. Nous entendons le Christ, dans un passage de l'Écriture, s'adresser à des hommes qui étaient dans cette même condition et leur dire, tu ne sais pas que tu es malheureux. Vous voyez, parfois, cette absence de bonheur, ce malheur nous échappe, parce que nous n'avons pas pris le temps d'y réfléchir. Mais une fois encore, notre conscience, lorsque nous nous retrouvons seuls, rend témoignage de cette réalité. Puis enfin, si on réfléchit à ces malfaiteurs, ces deux hommes, on s'aperçoit que malgré leur malheur, malgré leur grand besoin, ils sont dans un grand besoin, mais ils sont révoltés. Malgré leurs conditions, plutôt que de chercher Dieu, plutôt que de se tourner vers celui qui peut les secourir, en tout cas dans un premier temps, pour l'un d'entre eux, sont révoltés. C'est l'évangéliste Matthieu, l'évangéliste Marc également, nous rendent ce témoignage qu'au début, tous deux, ces deux malfaiteurs vont injurier Jésus. Ils l'injurient, ils se moquent de lui. Ce sont les derniers instants de leur vie. Ils ont devant eux, à quelques mètres, celui qui peut les sauver. Mais ils ne le reconnaissent pas, se moquent de lui. C'est une image terrible. Vous voyez, de l'humanité qui, malgré son désarroi, malgré les problèmes qui la surpassent, malgré les problèmes qui l'enfoncent, bien manifeste du rejet par rapport à son Créateur, manifeste parfois du mépris, parfois de la moquerie, de la raillerie. Ces deux hommes nous parlent de l'humanité. Nous parlent de l'humanité sans Dieu. Ces deux malfaiteurs au milieu desquels le Seigneur est crucifié. Dieu nous parle à travers eux. Il met devant nos yeux un miroir de notre condition. Pourtant, il n'y a rien dans ces deux hommes qui attire, qui excite la compassion, finalement, quand on considère leur condition. Et pourtant, nous voyons dans cette scène où Jésus est crucifié au milieu d'eux, le fait que Jésus n'a pas cessé d'aimer l'humanité et qu'il le prouve en mourant pour elle, en mourant pour nous. pendu, lui aussi, au bois, non pas pour ses fautes, car il n'en a commis aucune, mais pour les nôtres. Voyez, le Seigneur est venu au milieu de nous. Il est au milieu de ces deux malfaiteurs. Par Jésus, ça dépasse l'entendement, c'est Dieu, c'est le Créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui s'y trouve, qui descend et qui vient mourir comme un simple homme. C'est le Créateur, au milieu de ces deux malfaiteurs, il est lui aussi pendu au bois. Il est venu, il a pris, il a eu part en toute chose à la condition humaine, il s'est fait homme, il s'est rendu semblable à nous. Et il nous prouve en ceci, il y a l'amour qu'il nous porte, l'attention qu'il nous porte, il s'est identifié à ces deux malfaiteurs, puisque il meurt au milieu d'eux, il s'est identifié à nous, en paraissant comme un simple homme, et en s'humiliant jusqu'à la mort de la croix, il s'est identifié à nous jusqu'à partager notre souffrance, et finalement jusqu'à porter le poids de notre culpabilité, de nos péchés. Vous voyez, s'il meurt, c'est pour prendre sur lui, c'est pour porter la culpabilité de ces hommes, de ces malfaiteurs, et la nôtre. Nous avons parlé de cette réalité qui était la nôtre, notre culpabilité vis-à-vis de Dieu, la condamnation sous laquelle nous nous trouvions, bien Jésus la porte. Le prophète a déclaré de lui qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que la condamnation, le châtiment qui nous donne la paix, va tomber sur lui. Et ça dépasse notre entendement, il faut l'accepter. C'est ce que l'Écriture nous révèle. Il est venu pour prendre à notre place le châtiment qui s'attache au péché, pour que nous en soyons délivrés, pour que nous n'ayons plus à le subir. De telle sorte que la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui, reconnaissant leur péché, placent leur foi en Jésus-Christ, se trouvent par là même en Jésus-Christ. Quelle paix, quel repos. Quand un homme, une femme ouvre les yeux au fait de sa condition de pécheur, reconnaît son véritable besoin, savoir celui de reconnaître son péché, de l'abandonner, d'en recevoir le pardon, bien par Jésus-Christ, c'est possible. Si le salaire du péché, c'est la mort, bien le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Le pardon est un poids qui est ôté de notre conscience. Il n'y a plus aucune condamnation. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, par la foi en lui, nous avons à nouveau, nous recouvrons cette possibilité de nous approcher de Dieu avec confiance. Dieu devient notre Père céleste. C'est une réalité, ça. Nous pouvons la vivre aujourd'hui, si ce n'est pas fait. Quelle que soit notre culpabilité, quel que soit notre passé, regardez ces deux hommes, par leur culpabilité extrême, ils nous parlent du fait que nul n'est exclu de la grâce de Dieu, de la possibilité du salut. Pourtant, nous voyons, et c'est un appel que Dieu adresse à notre conscience, car Dieu, lorsqu'il nous cherche, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous appelle, eh bien, il nous appelle à prendre une décision, notre âme et conscience, une décision libre, bien, ces deux malfaiteurs ont deux réactions différentes. Ces deux malfaiteurs ont une réaction différente. Et là aussi, c'est un miroir de l'humanité que Dieu met devant nous. Nous l'avons dit au début, tous les deux raillent, se moquent, rejettent le Christ qui est là devant eux. Et c'est au bout d'un certain temps que l'un de ces deux malfaiteurs va prendre conscience de son véritable besoin, mais aussi de ce que Jésus est venu lui apporter, à lui, le malfaiteur. Alors qu'est-ce qui a pu se passer dans son cœur ? La Bible est très sobre. Elle nous rapporte en quelques versets, en quelques mots seulement, la réaction de cet homme. Sans doute, voyez, cet homme a-t-il observé, malgré la souffrance qui est la sienne, malgré le fait qu'il est lui aussi pendu au bois, cet homme a sans doute observé la réaction du Christ tellement différente de celle à laquelle on était habitué lorsque une scène pareille se produisait, lorsque des crucifiés étaient exposés à la vindicte de la foule. Voyez, non, il n'y avait pas de haine. Le Seigneur Jésus venait même d'intercéder pour ceux qui l'avaient mis en croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, c'est vrai qu'il y avait aussi sur la croix où le Christ avait été placé, cette inscription qui affirmait « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et pour ce malfaiteur, il y avait sans doute possibilité, voyez, de réfléchir à ce témoignage rendu par l'Ancien Testament, ce témoignage rendu par les Juifs au fait que le fils de David devait venir et régner éternellement sur la maison de Dieu. Et puis il y a eu l'œuvre du Saint-Esprit, là dans son cœur, dans sa conscience, de la même manière que le Saint-Esprit agit aujourd'hui encore dans le cœur et la conscience de tout homme, de tout être humain. Et Dieu nous parle. Au jour où nous passerons dans l'éternité, certainement il sera manifesté que Dieu a parlé à tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, d'une manière beaucoup plus nette que ce que parfois nous voulons reconnaître. Dieu nous parle au fond de notre conscience. Cet homme va prendre conscience de cette réalité, il va faire une prière extraordinaire, il va se mettre à reprendre son compagnon d'infortune, ce deuxième brigand, en lui disant « Mais ne crains-tu pas Dieu ?» Puis il se met à reconnaître sa propre culpabilité. Pour nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. Il, de moqueur, de railleur qu'il était, il reconnaît l'innocence de Jésus. Et s'adressant à lui, il formule cette prière extraordinaire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Là, il s'adresse à celui qui peut le délivrer. Il y a un moment dans la vie où il faut s'adresser à celui qui peut nous secourir. Est-ce que vous êtes, voyez, vous aussi, aux prises avec des événements qui vous dépassent? Est-ce que la vie vous a malmené? Est-ce que, à cause des événements qui vous dépassent, à cause d'un coup dur, à cause de quelque chose qui a frappé, est-ce que finalement vous reconnaissez vous aussi votre besoin de Dieu, votre besoin d'une intervention divine, votre besoin du pardon divin? Bien comme cet homme, adressez-vous à celui qui peut vous secourir. Tournez-vous vers moi, vous tous, qui êtes aux extrémités de la terre, dit-il, et voyez, je vous sauverai. Le Seigneur va parler du haut de la croix où il se trouve. Aujourd'hui, ce n'est plus du haut de la croix qu'il nous parle. Nous l'avons dit, il nous parle du haut des cieux. Tout pouvoir lui ont été donné dans le ciel et sur la terre. Mais sur la croix, voyez, mystère de l'œuvre de Christ. Il est Dieu. Et il va prononcer une parole de salut, une parole de délivrance. Malgré l'œuvre qu'il accomplit en tant qu'homme, sauveur, rédempteur, il prononce cette parole et elle va s'adresser au cœur et à la conscience. C'est une promesse. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand sur la croix s'apprête à vivre les dernières heures de sa vie, mais tout a changé. Malgré la douleur physique, malgré l'agonie, de douleur dans laquelle il se trouve, il vit ses plus beaux moments sur la terre. C'est paradoxal de parler ainsi, mais c'est vrai. Malgré la douleur qui sera la sienne jusqu'à ce que les fonctions vitales de son organisme cessent de fonctionner, de se manifester, il va recevoir l'assurance de la vie éternelle par cette parole de Jésus, certainement accompagnée par le témoignage du Saint-Esprit à son cœur, à son âme. Il sait que ses yeux vont se fermer, mais il va monter au ciel. J'aimerais que nous réfléchissions quelques secondes simplement avant de prier ensemble au caractère du salut que Dieu donne à ce brigand qui se repent, parce que c'est le même salut que Dieu nous donne et nous propose gratuitement cet après-midi. C'est un salut absolument gratuit. Cet homme est crucifié. Il n'a plus même la possibilité de mouvoir ses membres. Il n'a plus aucune possibilité d'accomplir quelque acte méritoire, quelque œuvre de pénitence qui donnerait l'impression qu'il rachète ce qu'a été sa vie misérable. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Et pour que personne ne pense en tirer gloire, c'est par la foi seule en Jésus. C'est par grâce. C'est un pardon gratuit. C'est un salut absolument immérité. C'est un salut aussi qui est complet. Vous voyez, il n'y a plus une trace de condamnation qui subsistera, parce que cette parole de Jésus l'accomplit, elle l'établit, tu seras avec moi. Aujourd'hui, voyez, il n'y a plus rien qui empêche cet homme parce qu'il a placé sa foi en celui qui a payé à sa place. Eh bien, il va être parfaitement pardonné. C'est un salut parfait. Il lui ouvre les portes du ciel, les portes du paradis. C'est un salut immédiat. C'est un salut immédiat. Est-ce qu'on peut imaginer cela ? Jésus lui parle du haut de la croix où lui-même est pendu, en lui disant, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors c'est immédiat dans le sens où, oui, pour cet homme qui devait mourir quelques heures plus tard, il devait se trouver dans le ciel, le jour même, rendez-vous compte. Mais c'est immédiat dans le sens où ça prend effet maintenant. Nous avons évoqué la possibilité qu'il nous reste de longues années à vivre sur cette terre. Tant mieux si c'est le cas d'une certaine manière, mais le salut prend effet dès le moment où nous recevons le Seigneur. C'est toute la vie qui bascule, toute la vie qui change dans le bon sens, la vie qui est transformée. L'espérance de cette vie éternelle vient là dans notre cœur et nous avons, nous, cette possibilité, si Dieu nous prête vie, eh bien de changer de direction, d'altérer notre conduite. Vous voyez, cette conduite qui a pu non seulement nous faire du tort, mais aussi occasionner des souffrances autour de nous, il est possible de revenir. Il est possible de revenir dans un chemin qui plaît à Dieu, un chemin qui va même être utile à ceux qui nous environnent. Il est possible, aujourd'hui, de reprendre contact avec tel membre de famille avec lequel nous sommes restés brouillés, froissés. Il est possible de revenir vers celui qu'on a peut-être blessé, offensé, envers lequel on a commis une injustice qui demande à être réparée. Notre cœur, notre conscience en rend témoignage. C'est possible, non pas comme une contrainte, mais de le faire avec la conviction de Dieu. Seigneur, tu me donnes la possibilité, voyez, de réparer bien certains des actes que j'ai pu accomplir dans ma folie. Tu me donnes la possibilité, en attendant ton retour, en attendant de passer dans l'éternité, de vivre une vie pure, une vie digne, une vie qui mérite d'être vécue, une vie où je remplis la vocation à laquelle tu m'as appelé, où je me comporte de telle manière que ma conscience rend témoignage que c'est beau. Un homme de Dieu pouvait écrire « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête ». C'est ce que Jésus est venu nous apporter, c'est ce que nous voyons à travers ce brigand qui se repent. Ces deux brigands parlent de la condition de l'humanité. Jésus nous parle du haut des cieux. Et puis ces deux brigands nous parlent du fait qu'il y a un choix. On peut hélas choisir de ne pas en tenir compte. On peut choisir de le recevoir, ce salut, comme ce brigand. Recevoir la vie éternelle. En voudriez-vous ? Nous allons nous recueillir quelques instants et prier le Seigneur. Merci Seigneur.